Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le puits des illusions.
Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Proverbes. Alors, c'est l'art du bien vivre. Alors, il y a beaucoup de choses, certainement, eh bien, à s'inspirer à travers ce livre. Nous avons et nous apprenons eh bien, les secrets d'une vie réussie. Et dans le chapitre 12, nous allons lire le verset 12, livre des Proverbes, chapitre 12, verset 12. Où il est question d'un état, d'une situation vécue de toujours par les hommes, et voilà ce que nous avons sous les yeux. Alors, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe chapitre 13, verset 12. Voilà. Je vous ai induit en erreur parce que je me suis simplement fixé sur le chapitre que j'avais devant les yeux. Alors, vous voudrez bien me pardonner.
Peut-être à l'avance.
Chapitre 13, verset 12. Je relis. Et j'espère que je vais me tromper de verset cette fois-ci. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. On passe tous par des phases dans l'existence où nous avons à attendre quelque chose. Alors il y a des situations qui sont des choses indifférentes, sans importance, qui n'ont pas trop de valeur. Et puis, bon, ce n'est pas celles-ci qui nous préoccupent. Elles viennent quand elles viennent, tout simplement. Alors, à ce moment-là, on sait les attendre. Mais il y a parfois, dans le cours de notre vie, des situations qui, véritablement, nous tiennent plus que d'autres à cœur. Et celles-ci, eh bien, ça peut véritablement nous rendre profondément malheureux. Et c'est souvent des choses qui ont trait à notre vie sentimentale, à notre vie affective, à des choses urgentes, des situations qui sont à nos yeux indispensables, qui sont véritablement eh bien, essentielles. Alors c'est pourquoi il est écrit justement « Un espoir différé rend le cœur malade ». Vous comprenez, hein, on a tous vécu quelque chose dans ce genre. Et parfois, eh bien, on en perd la joie, ou tout simplement l'élan, l'entrain. Certains en perdent l'appétit, parce qu'ils se disent, sans ceci ou sans cela, sans cette personne, sans celui-ci ou sans celle-là, je ne peux pas vivre. Je ne saurais vivre autrement. Mais il y a naturellement, comme cela arrive très souvent dans la Bible, quand il y a une instruction, un enseignement, il y a la contrepartie. Il est dit, mais un désir accompli est un livre de vie. Et c'est vrai que lorsque nos espérances se réalisent, nos grandes espérances voient le jour, que véritablement, eh bien, elles sont à nous, alors à ce moment-là, eh bien, tout change. Auparavant, c'était la tristesse, l'impatience, parfois même le mécontentement. Et voilà que les choses arrivent, et ça change du tout au tout. Ça se voit sur la physionomie des gens, sur leur façon d'être, leur parole. Comme quoi le visage est véritablement, en quelque sorte, le reflet de nos états d'âme, de nos états intérieurs. Il y a un texte qui est très intéressant dans une nouvelle traduction. Il est dit ceci, c'est le même texte. Il est dit « une espérance ». Qui traîne en longueur, est un crève-cœur. Eh oui. mais un désir satisfait est un arbre de vie. Vous savez que l'arbre de vie, c'est une image qui nous est laissée dans la Bible. Dans le livre des commencements, la Genèse, il est question dès les premiers chapitres d'un arbre de vie. Et puis, vous savez que dans le livre de l'aboutissement, le livre de l'Apocalypse, il est question également, à la fin, d'un arbre de vie. Et vous savez que cet arbre de vie, c'est véritablement, si vous me permettez, on pourra lui donner naturellement diverses significations, mais je crois que c'est notre foi en Dieu. Ouais, alors, ça a bien d'autres sens. Mais je voudrais le caler, cette pensée la caler, justement sur ce qu'un homme est capable de faire, s'il le veut, c'est de faire confiance à Dieu. Et l'arbre de vie a été soustrait aux premiers hommes parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et nous voyons que le livre de l'Apocalypse, qui est le livre finalement d'une nouvelle dimension, une dimension spirituelle, où l'homme va retrouver le chemin de l'arbre de vie. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous parler ce soir, parce que c'est important. Alors, je le rappelle, une espérance qui traîne en longueur, où on n'en arrive pas au bout, eh bien, c'est un crève-cœur. Mais lorsque les choses, eh bien, parviennent à maturité, alors à ce moment-là, on est heureux, on est joyeux. Et à ce titre, j'aimerais simplement que nous tournions les pages de notre Bible et nous allons lire brièvement, je ne peux peut-être même pas lire tout l'ensemble, mais je voudrais présenter un cas emblématique, c'est-à-dire un cas qui montre bien, finalement, la transformation qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un homme ou d'une femme, d'une personne, lorsqu'il passe de la désespérance à l'espérance. Lorsqu'il passe d'une chose attendue qu'il attend et qui le rend malade, à la chose qui se réalise et qui là va le rendre joyeux et qui même va le faire rentrer dans une autre dimension, une dimension insoupçonnée, une dimension qu'il ne connaissait pas, et là je vais le mettre au féminin, une dimension qu'elle ne connaissait pas. Je voudrais vous parler de cette femme dont le récit nous est relaté à travers l'évangile de Jean au chapitre 4, il s'agit de la Samaritaine. Alors on va voir en développant, on va illustrer ce livre, ce verset du livre des Proverbes. L'histoire de la Samaritaine. Et s'il y avait un titre à donner à notre réflexion ce soir, je vous parlerai du puits des illusions. Voilà. Parce que parfois, dans nos espérances, il peut y avoir de grandes illusions. Et de grandes désillusions lorsque, finalement, eh bien, ça n'arrive jamais. Et nous voyons que cette femme dont il est question, qui va être l'objet d'une conversation, d'un entretien, une rencontre avec Jésus, va tout changer. Et cela souligne le problème de tous les temps, à travers toutes les époques et tous les siècles, c'est ce que l'on pourrait appeler les insatisfactions humaines, où des êtres, hier et aujourd'hui, restent en quelque sorte sur leur faim, façon de parler sur le plan moral, restent dans une attente pathétique, souvent eh bien, difficile, cruelle, et qui les amène, dans certains cas, à être profondément mécontents parce qu'ils n'ont pas pu obtenir. Et l'obtention qui ne se réalise pas amène des frustrations et amène aussi, chez beaucoup de gens, de l'aigreur, de l'amertume. Parce qu'ils ne sont pas parvenus. Ils n'ont pas atteint le but, le rêve qu'ils s'étaient peut-être, eh bien là, mis en tête ou au fond de leur cœur. Et c'est quelque chose de difficile à vivre. Ça, c'est dans tous les temps. Je crois que notre société, eh bien, a fait et a multiplié des gens qui sont insatisfaits. Des gens qui sont inassouvis. C'est-à-dire qui ne sont pas contentés. Et pourtant, nous vivons dans un siècle où il y a quand même des possibilités que ceux qui nous ont précédés ne connaissaient pas, n'avaient pas. Alors, il y a ces deux positionnements. Il y a celui qui reste avec une profonde insatisfaction, mécontent, qui ne vit pas, qui est renfermé dans sa tristesse, dans une forme de médiocrité parce qu'il ne peut pas avancer, tant qu'il n'a pas la chose qu'il a rêvée ou espérée. Et puis, il y a celui qui est pleinement heureux en disant, bien, c'est formidable parce que j'ai accompli, j'ai réussi, j'ai atteint le but, et aujourd'hui, je suis contenté. Alors, les insatisfactions humaines. Je voudrais simplement lire un premier verset dans Jean chapitre 4, verset 4, et ça va nous servir d'introduction. Il nous est simplement placé sous les yeux cette parole, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Il est question de Jésus. Jésus qui allait de ville en ville et qui, là, eh bien, prêchait le royaume de Dieu. Et vous avez remarqué avec moi, il y a cette petite, ce petit mot, cette petite assertion, où il est question de « comme il fallait qu'il passe ». Et je voudrais ajouter ceci, c'est que quelquefois, pour parvenir à la délivrance ou à la guérison, pour parvenir à la réalisation de nos espérances, il faut passer par quelque chose. Voilà. Et Jésus, lui, passait pour apporter la délivrance. Il passait pour apporter la satisfaction aux hommes. Il passait pour apporter la guérison, que ce soit une guérison physique ou une guérison intérieure. Il passait parce qu'il était là encore le détenteur, finalement, du salut pour tous ceux qui espéraient et qui attendaient une consolation de Dieu, qui attendaient, eh bien là, de grandes choses de la part de Dieu. Alors, il fallait qu'il passe par là pour guérir le cœur d'une femme. Il y en a eu d'autres, hein, et à travers tous les temps. Et cette femme était profondément malheureuse, on va le voir. Et la nature de sa misère, de son malheur, eh bien, c'était une misère morale. Elle avait peut-être autour d'elle, et dans les moyens dont elle disposait, peut-être pas trop de soucis. Mais il y avait quelque chose qui ne se voyait pas. C'était au fond d'elle-même un abîme, une misère morale. Et je voudrais vous dire, comme Jésus devait passer par la Samarie pour rencontrer une femme de la Samarie, une Samaritaine, eh bien je crois que nous allons découvrir brièvement ensemble que Dieu va à notre rencontre sur des chemins providentiels, nous allons les découvrir, des chemins qui sont en quelque sorte tracés par Dieu pour nous et qu'il réserve à ceux qui l'aiment. On ne peut pas dire que cette femme connaissait Jésus. Elle ne pouvait donc pas l'aimer. Mais néanmoins, Dieu voit déjà dans nos cœurs notre capacité ou notre réceptivité à la foi pour que, au moment où la flamme va jaillir, nous soyons en possibilité d'aimer Jésus, d'aimer Dieu, d'aimer ses paroles, parce que ce sont ses paroles qui donnent la foi. Et à partir de là, eh bien, nous entrons et nous nous positionnons dans une autre dimension qui nous permet de réaliser bien nos espérances, nos espoirs. Je le rappelle, un espoir différé rend le cœur malade. Alors, les choses sont présentées de cette manière. Et je voudrais vous dire, je voudrais dire et partager avec vous que nous sommes ce soir confrontés avec un avertissement, en quelque sorte, ou le mot avertissement peut-être un peu fort, mais à prêter attention afin que nous ne fassions pas fausse route et donnons-nous ce soir le temps, tout simplement, d'écouter les « il faut » de Dieu. Ce ne sont pas des commandements arbitraires, mais comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, eh bien nous, il nous faut que nous passions par cette approche de Jésus et à ce moment-là, eh bien, nous donner les clés ou les solutions pour sortir peut-être de ce marasme dans lequel nous sommes renfermés parce que nous n'avons pas encore obtenu ce que nous espérons et ce qui nous est très cher au fond de notre cœur. Donc, une femme, elle se trouve à ce moment-là devant un puits. C'est le puits de Sichar, on l'a vu. Mais c'est aussi un autre puits dont je voudrais vous entretenir, parce que cette femme a un puits sans fond, parce qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Et elle est déçue, et on pourrait dire que sa vie même est gâchée. Jésus va l'entretenir sur un sujet tout à fait particulier, inattendu. Et si je prends par exemple le verset 15, Alors que Jésus a essayé d'amener cette femme à une réflexion par-delà peut-être toutes les contingences de l'existence quotidienne, cette femme va s'adresser avec une demande précise. Il nous est dit qu'elle s'est tournée vers Jésus et elle lui a dit ces paroles, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ça, c'est le cœur de notre message. Cette femme va comprendre qu'elle est en face d'un homme qui n'est pas comme les autres. Et des hommes, elle en connaissait. Je vais vous en dire quelques mots. Mais elle est là, interpellée au fond de son cœur. Elle sait parfaitement son problème. Jésus connaît parfaitement son problème. Et petit à petit, il va la faire passer du niveau des choses quotidiennes, des choses de la vie, des choses de la nature, à une dimension morale. Et de cette dimension morale, il va l'élever à une dimension spirituelle pour qu'elle puisse obtenir, pour qu'elle puisse avoir la satisfaction de son cœur, qu'elle puisse obtenir finalement ce qui fait que c'est une personne qui attend depuis longtemps quelque chose et ça la rend malade, tout simplement. Alors elle lui dit, je répète, « Donne-moi, dit-elle à Jésus, cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Eh oui, parce que Jésus lui avait dit précédemment quelque chose qui a dû l'interpeller, c'est que d'abord, dans un premier temps, Jésus s'est trouvé au même endroit, dans ce lieu qu'on appelle le puits de Sichar, et c'est l'heure où personne ne sort en Orient, parce que c'est le soleil est à son zénith, c'est là où il fait le plus chaud. Et Jésus, il est fatigué, il s'assoit pendant que ses disciples sont partis dans la ville, dans les villes à côté, chercher de la nourriture, et il se trouve assis là, alors que s'approche de lui une femme. En Orient, on ne va pas chercher l'eau à midi. On le prend le matin de bonne heure ou le soir, à la fraîcheur. Mais cette femme venait à midi parce qu'elle avait une réputation que l'on pourrait appeler sulfureuse, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était une femme qui avait une mauvaise réputation, et ce n'était pas en raison du soir ou du matin pour venir quérir de l'eau. C'était pas pour cela. C'est parce qu'elle savait qu'en venant à midi, les gens du village ne seraient pas là, que les femmes ne seraient pas là, parce que se rencontrer avec la population, elle et la population, ça crée un embarras et un malaise. Vous dire tout de suite que c'était une femme légère, que c'était une courtisane, tout simplement. Alors elle préférait rester un petit peu là, toute seule, et elle va se trouver finalement toute seule avec Jésus. Jésus sait très bien qui est cette femme. Elle n'a pas besoin de lui raconter sa vie, Jésus le sait, il voit, il vit dans son cœur. Et cette femme est stupéfaite parce qu'elle voit cet homme, elle le reconnaît comme un juif, probablement peut-être à la manière dont Jésus s'habillait, faisant la distinction entre les habits traditionnels des juifs et puis des samaritains. Et là, il va y avoir une conversation qui va s'engager. Jésus, dans un premier temps, va lui dire « donne-moi à boire ». Et elle va dire « mais c'est pas possible parce que, donne-moi à boire parce que je n'ai rien pour puiser ». Et puis, de fil en aiguille, nous voyons qu'à un moment donné, Jésus va lui faire une réflexion particulière. Il va lui dire « si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce puits, comme tous les puits, on y revient chaque jour. On y revient tous les jours de la vie. On y revient de la naissance jusqu'à la mort parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Et cette femme venait toujours à la même heure pour éviter d'être critiquée ou d'être moquée par toutes les autres femmes du village. Alors elle venait là parce qu'elle savait qu'elle était tranquille. Et elle prenait son eau et elle rentrait chez elle et le lendemain elle faisait la même chose. Et elle faisait ça elle a fait ça toute sa vie en quelque sorte. une partie de sa vie. Et voilà qu'une conversation va se lier entre elle et cet inconnu qu'elle reconnaît naturellement, je l'ai dit, comme un juif. Et Jésus percevant, sachant toute la nature de ce qu'il y avait dans le cœur, la misère de cette femme, sa misère morale, va lui dire, « Eh bien, écoute, moi je t'ai demandé de l'eau, mais si tu savais qui te parle, moi, Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, alors ça aurait été le contraire qui se serait passé. » Parce que moi, j'ai quelque chose à te donner que tu ne connais pas. J'ai un don que tu ignores. J'ai quelque chose venant du ciel qui va t'apporter une pleine et entière satisfaction. Et si véritablement tu bois de cette eau-là, eh bien, tu n'auras jamais soif de ta vie. Je l'ai dit et je le répète, cette femme venait, elle puisait. Et vous savez, cette image de ce puits sans fond, sur lequel, eh bien là, on se penche pour retirer de l'eau, c'est l'image de notre société d'aujourd'hui et des sociétés certainement avant nous, où on a fait finalement eh bien, le but et l'objectif de l'existence humaine avec des choses qui sont consommables et pour lesquelles on vient, on revient et pour lesquelles on n'est jamais satisfait. On a toujours faim et on a toujours soif. On est toujours auprès de ce puits et finalement il ne nous désaltérera jamais. On pourrait parler aujourd'hui du puits du matérialisme, où là, depuis des décennies, eh bien, par l'évolution de la société, par toutes sortes de facteurs sociaux ou autres, politiques, on a donné quand même aux gens ce que nos pères et nos ancêtres n'ont jamais connu. Imaginez-vous, on vit quand même dans un certain confort. On vit quand même avec des conditions, enfin, dans une vie normale, je veux dire. Et on s'aperçoit que plus les gens ont, plus ils ont encore envie d'y retourner. Et ils ne sont jamais satisfaits. Il n'y a jamais eu autant d'insatisfaction, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont aux prises avec l'anxiété ou avec la dépression. Ça n'a pas de fond, ce puits-là. C'est le puits des illusions. Alors on vient, on retourne et on retourne et on retourne jusqu'à la fin de la vie. Et les gens sont frustrés. Parce que pour tout avoir, ce n'est pas possible. On regarde et on voit toujours qu'il y a plus grand, plus riche, plus possédant que nous. Alors, c'est ça le problème du cœur humain. C'est qu'il n'est jamais contenté. Et parfois, eh bien, ça l'amène à des choses qui sont profondément mauvaises. Hein, ne pouvant pas posséder d'une manière totalement naturelle. Alors, à ce moment-là, eh bien, on va essayer de, par la violence et par la force. Les journaux nous parlent de ça tous les jours, hein, naturellement. C'est le puits des illusions. Alors on puise, on recommence, et on n'est jamais satisfait. On est contenté pour un jour, mais ça sera un mécontentement de toujours. C'était le problème de cette femme. Mais le problème, il se situait d'une manière tout à fait particulière, parce que c'est une image que je prends, c'est un symbole. Cette eau qu'elle remontait, elle le buvait, et puis elle revenait comme ça. Mais c'est un symbole parce qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas véritablement, eh bien, elle n'avait pas trouvé la solution. Et je reprends, à un moment donné, il nous est dit, Jésus va lui dire, quiconque boit de cette eau, en montrant le puits, le geste de cette femme qui remonte avec son seau, eh bien, cette eau, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors là, c'est quelque chose de formidable, vous rendez compte, vous passez de boire, extraordinaire, hein. Moi, se passer de manger, se passer de ceci et cela sans que véritablement, eh bien, ça nous altère. Et au contraire, c'est un contentement. Et Jésus précise, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Et quand il est question de « en lui », c'est notre vie intérieure, c'est notre vie morale, c'est notre moi profond. Alors une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction, il y a une satisfaction, il y a un contentement complet, parfait, non seulement pour cette vie ici-bas, parmi les hommes sur cette terre, mais il y a une promesse qui va beaucoup plus loin, c'est qu'après la vie sur cette terre, il y a une autre dimension que Jésus appellera la vie éternelle. Et je crois que c'est ce qui manque, cette perspective et cette vision de notre monde qui se déchristianise, de ce monde qui ne croit plus en rien sinon en lui-même, ou dans ses moyens, ou dans ses prouesses, ou dans sa recherche, ou dans tout ce que vous voulez imaginer. C'est aussi vaste que l'océan, et on s'aperçoit que dans cette recherche et cette course, eh bien, l'homme est de plus en plus malheureux. Et cette femme avait un problème particulier que Jésus va souligner. C'est parce que quand elle-même va comprendre que cet homme qui s'appelle Jésus n'est pas comme tous les autres hommes, a quelque chose de particulier, non seulement eh bien, un pouvoir particulier, mais la manière dont il parle, parce qu'il parle de la terre, mais il parle du ciel. Et Jésus faisait comprendre à cette femme, plus tu puises, plus tu t'épuises. C'est ça ce qu'elle avait besoin de savoir. Et plus les gens essaient de remonter finalement, eh bien là, richesse, argent, ou contentement, bien-être, confort, tout ce que vous voudrez, on s'aperçoit qu'au terme de l'existence, il y a quelque chose qui reste vide. Oh, ils sont peut-être riches. Peut-être qu'ils ont fondé un empire, d'une façon ou d'une autre. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est ce qui fait l'appréhension de la mort, de devoir quitter cette terre sans avoir réfléchi et sans avoir s'être préoccupé que l'essentiel, c'est pas de manger et de boire, c'est pas d'avoir ceci ou cela, de s'être fait construire une maison, un paradis, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler terrestre, comme vous voudrez, mais c'est d'avoir négligé l'intérieur. C'est l'histoire de ce riche cultivateur qui nous est rapportée dans une parabole par Jésus, quand il nous est parlé de cet homme qui, à un moment donné, après avoir amassé des gains considérables, certainement par un honnête travail, je ne veux pas penser que c'était un malhonnête, et au bout d'un certain temps, arrivé au soir de sa vie, il se dit, maintenant, puisque j'ai gagné beaucoup d'argent, je vais me reposer, je vais jouir de la vie, et ceci et cela. Et Dieu lui parle, la nuit même, il lui dit, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Tu as oublié l'essentiel. Tu as confondu les moyens d'existence avec les buts de la vie. Et les buts de la vie, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette femme, justement, doit l'apprendre. Et elle est mal partie. Parce que, finalement, sa vie morale n'est certainement pas comme Dieu aimerait qu'elle soit pour elle, ou qu'elle soit peut-être pour beaucoup d'hommes encore de notre temps. Et vous verrez que c'est sans jugement. C'est simplement un diagnostic d'une maladie. C'est simplement le diagnostic de quelque chose qui a besoin d'un remède beaucoup plus profond qu'une thérapie humaine ou une philosophie, même une théologie religieuse. Alors, cette femme lui dit, donne-moi maintenant à boire, parce que comme ça, quand tu m'auras donné cette eau dont tu me parles, et qui maintenant m'interpelle, alors à ce moment-là, je ne viendrai plus, et puis ça sera formidable. Donc, il a amorcé chez cette femme une véritable curiosité de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et, oh surprise, la manière dont Jésus va traiter le problème va la surprendre au plus haut point. Écoutez la suite. Au verset 17, il nous est dit, la femme répondit, ou verset 16 plutôt, il lui dit, Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Waouh! Là, on est complètement sorti du contexte. Mais non, on n'est pas sorti du contexte. On est devant le vrai problème. Et cette femme a besoin de l'avoir. Alors, elle va être complètement sidérée, elle va être stupéfaite, elle va dire, mais comment cet homme connaît-il ma vie? Comment me parle-t-il de mon mari? Moi, je crois que Jésus veut interpeller cette femme parce qu'il veut qu'elle soit bénie. Mais il faut qu'il règle, il faut qu'elle règle un premier problème qui a été la source de ses illusions, vous savez. La source de ses illusions, c'est que cette femme, pendant toute son existence, moi je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir, mais c'est certainement encore une jeune femme, belle, certainement qui pouvait être, eh bien là, enviée par des hommes. Et nous voyons que, malgré peut-être tous ces attraits qui lui étaient propres, une chose qui est certaine, c'est qu'elle n'avait jamais rencontré le vrai bonheur. Le vrai bonheur sentimental, le véritable amour, la satisfaction affective. C'est pourquoi Jésus lui dit, mais appelle ton mari, parce que je voudrais te bénir avec lui. Et la femme est honnête. Elle lui répond au verset 17, je n'ai point de mari. Ce à quoi Jésus va lui répondre immédiatement, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, ça fait 6. Une femme qui avait misé toute son existence pour être heureuse sur un homme qu'elle se représentait comme l'homme idéal, le mari idéal. Alors, elle vivait avec ça. Le premier a dû être un enchantement. Et puis au bout d'un certain temps, elle s'est aperçue que ce n'était pas ça. Alors elle en a pris un deuxième. Et puis le deuxième était différent du premier, forcément. Mais elle s'est aperçue qu'il y avait encore d'autres problèmes et d'autres défauts chez ce deuxième. Alors elle a essayé un troisième, et puis le quatrième, le cinquième, et puis Ces 5 premiers avaient été évacués, hein, parce que je ne sais pas de quel côté ça se passait, mais toujours est-il qu'ils avaient disparu de la circulation. Et quand elle avait trouvé le 6e, elle s'était dit « Mais c'est certainement l'homme qu'il me faut ». Elle l'avait gardé, hein, au moment où elle rencontre Jésus. Son gros problème, c'était un problème d'amour. Elle mourait d'amour vrai. Elle mourait, elle se consumait à l'intérieur d'elle-même parce que elle avait mis les choses tellement hautes. Je ne sais pas si ça existe un mari idéal. Je ne sais pas si ça existe une femme idéale. C'est l'équilibre, hein ? Comme ça, on est quitte. Heureusement, il n'y a pas 3 ou 4 sortes. C'est bien comme ça, hein ? Mais elle vivait, et cette femme, puisée à ce puits des illusions, en papillonnant, en butinant, en vagabondant de droite et de gauche, et elle se disait, un jour, je vais trouver le vrai, le beau, le grand, celui qui est riche, et tout le reste. Et, mais elle ne l'avait pas trouvé. Et ça aurait pu durer longtemps. Et là, elle se trouve devant l'homme idéal, qui lui dit, tu dis vrai, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, eh bien, ce n'est pas encore ton mari. Cette femme a une qualité. Oh oui, c'est une réputation douteuse, d'accord. Elle est décriée dans son village de Sichar. Et puis, on a dit beaucoup de choses sur elle. Oh, elle a certainement dû faire des dégâts dans les ménages. Peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose confrontée à quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. C'est-à-dire que Jésus fait éclater en elle un orage. Un orage. Une prise de conscience morale. Jusqu'ici, elle vivait cette petite vie, avec l'un, avec l'autre. Elle retournait à ce puits des illusions, et elle était prête peut-être à changer encore. Mais elle était profondément malheureuse, elle était vide. Elle se sentait toujours pas assez aimée. Ou alors, elle était aimée parce que c'était une femme, mais elle n'était pas aimée d'amour. Utilisée, tout simplement. Et comme elle était facile, eh bien les hommes s'approchaient, tout simplement. Mais il ne l'aimait pas réellement. Mais là, elle se trouve devant Jésus, qui va lui parler d'un autre amour, de quelque chose qui n'est pas de la nature de cet amour que l'on appelle en grec « eros », mais de ce que la Bible appelle « agapé », l'amour de Dieu. Et de cet amour-là, on peut aimer les autres, on peut aimer légitimement, on peut aimer sainement et saintement, et de dire, eh bien, et de trouver à ce moment-là la véritable satisfaction dans cet amour que Dieu fait entre un homme et une femme. À travers, eh bien, des relations avec des hommes et des femmes que l'on appelle des frères et des sœurs, mais en tout bien, tout honneur. Et là, il était question, finalement, eh bien, de cette affection qui met en présence un homme et une femme pour qu'ils s'aiment. Et qu'ils s'aiment selon l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sanctifie les affections. C'est Dieu qui les purifie. Et il fait des choses extraordinaires. Alors, elle est vraie, cette femme. Et elle dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas de mari. Parce que ce ne sont pas mes maris. Passade ou aventure. Je n'ai point de mari. Voilà, tout simplement. Et elle répond, mais tu as raison. En cela, tu dis vrai, et je vois, tu es prophète, répondra-t-elle. Là, elle est sortie un petit peu de son carcan, de sa prison, de sa captivité des choses de la terre, des choses basses de la terre, primaires, nous pourrions dire. Et là, elle s'aperçoit que, ah, cet homme, ce juif, ce prétendu prophète Jésus de Nazareth, il n'est pas comme les autres. Elle est en train de découvrir qu'il y a une autre dimension dans ce qu'elle recherche. Elle l'a recherché vainement, elle l'a recherché sans espoir, désespérée, avec une grande frustration. Avec, c'était un crève-cœur, un espoir différé rend le cœur malade. C'était précisément sa situation. Elle était malade d'amour, malade d'attendre, malade de voir celui qui viendrait et qui serait. Mais là, elle l'a rencontré ce jour-là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, Dieu trace pour nous des chemins providentiels. Et il les dispense à ceux qui l'aime. Je l'ai dit, elle ne connaissait pas Jésus, elle ne pouvait pas l'aimer. Mais là, il y a quelque chose qui vient d'apparaître et de naître dans son cœur, dans sa conscience, et aussi dans son âme. C'est qu'il y a une flamme qui commence à s'allumer. Le véritable amour. L'amour de Dieu. Je vois que tu es prophète. Alors elle va rentrer maintenant dans une réflexion qui est la réflexion de tous les hommes d'aujourd'hui. Tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui. Parce que, comme elle vient de prononcer le mot prophète, elle fait une association avec Dieu. Et elle se dit, eh bien, oui, j'avais oublié que Dieu existait. Alors elle va poser une question, elle va poser des questions à Jésus, qui sont les suivantes. Elle dira, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Quel labyrinthe que notre monde, où les gens disent, c'est ici, c'est là, j'ai la vérité, vous ne l'avez pas, et ceci et cela, c'est nous qui avons raison, et vous, vous avez tort. Et ça, c'est le grand, on pourrait dire, c'est le grand conflit, et ce sont des luttes incessantes depuis l'histoire, depuis le début de l'humanité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Et où faut-il l'adorer? Vers qui nous pouvons-nous tourner? Nous, les Samaritains, on nous a appris dans notre culture religieuse que pour aller... Eh bien, s'approcher de Dieu, un Dieu qu'on ne connaît pas trop, mais il faut monter sur le mont Garizim, c'est-à-dire, là, une montagne dans la région de Samarie, province de Palestine. Alors, on va là-bas, et puis il y a un temple, et puis on fait nos dévotions, etc., etc. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est pas là, mais c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, pour rencontrer le vrai Dieu. Parce que vous savez, quand on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on a trouvé Dieu, on a trouvé tout le reste. C'est lui qui peut nous donner... À juste titre, parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour et de compassion pour ceux qui le cherchent. Et quand on le cherche de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et de tout son cœur, eh bien vous savez qu'il y a une promesse. La parole de Dieu nous dit « Je me laisserai trouver par vous ». Et cette femme est sur la piste. Et là, elle est prête de trouver, mais il y a encore des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut, là, faut faire cela? Est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je dois aller là? Et voilà, Jésus va lui répondre. « Femme, lui dit Jésus, « crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ce ne sera ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, ça sera ni ici, ni là. » Alors, ça va clarifier la situation. Et je crois que ça devrait calmer la véhémence de certains avec leur parti pris, avec leur vision étriquée, avec leurs conceptions qui sont bien à eux, et qui fait que, eh bien, tous les autres se trompent, il n'y a que nous qui avons raison. Et Jésus va dire, non, non, c'est ni ici, ni là, mais moi je vais te montrer ce qu'il faut faire. Et Jésus s'adressant à elle, et à tout le peuple samaritain, dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus est radical. Vous, votre façon de concevoir Dieu, eh bien, peut-être que vous avez une forme très éloignée d'approche de Dieu, celui qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Parce que toutes les créatures sur la terre, que l'on soit juif ou que l'on soit samaritain ou que l'on soit ceci, cela, nous sommes tous des créatures de Dieu à la recherche, finalement, de la vérité et à la recherche de la vie. Et les choses sont présentées de cette manière. Alors, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Jésus va avoir l'audace de dire, nous, les juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc, on comprend que ce n'est pas dans un lieu ou dans un autre, mais il y a quand même une direction et il y a quelque chose qui peut nous mettre sur la voie pour trouver la réponse à nos questions et de nous amener dans une communion, une relation avec Dieu. Et s'il y a un peuple sur la terre qui a été détenteur, peuple élu, peuple choisi, peuple mis à part, pour avoir, eh bien là, les éléments pour nous conduire à Dieu, c'est quand même le peuple d'Israël, à travers ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ça, c'était quelque chose qui devait être une interpellation pour tous les peuples, parce que Israël avait été choisi par Dieu pour être le témoignage de toutes les nations. On sait que ce peuple a failli, mais néanmoins, Jésus dira... Mais le salut vient des Juifs. C'est pourquoi ils ont été si souvent persécutés. C'est pourquoi les Juifs ont été si souvent eh bien là, exterminés dans l'histoire du monde. C'était incessant. C'était des siècles et des siècles de sang et de feu, parce qu'ils détenaient quelque chose. Mais l'heure vient, dira Jésus, et elle est déjà venue, cette heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande, en esprit, en vérité. C'est fini de monter sur la montagne. C'est fini d'aller à Jérusalem. Et maintenant, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose qui ne s'explique pas avec des formes, qui ne s'explique pas avec une représentation physique et matérielle. En esprit, c'est notre cœur, c'est notre vie intérieure. Est-ce que cette femme avait besoin, pour comprendre le sens, finalement, de sa vie, c'était pas de revenir à son misérable puits, où elle remontait de l'eau sans cesse, mais là, elle avait besoin maintenant de descendre dans son cœur et d'y puiser toutes les ressources que Dieu y avait mis pour justement qu'elle découvre, eh bien là, le véritable chemin qui devait l'amener à la satisfaction, à la paix avec elle-même, la paix avec les autres naturellement, en esprit, en vérité. Et la vérité, c'est quoi? Je l'ai dit, le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que nous disons? La Bible nous donne la parole de Dieu que nous avons déclinée dans l'Ancien Testament. Mais plus grand qu'encore le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Évangile et la vie de Jésus. Et ça, c'est la vérité. Jésus nous dira, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et les vrais adorateurs, ceux qui prient réellement, ce sont ceux qui prient, ce sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Et pour trouver la vérité, eh bien, c'est sa parole, c'est ce que nous entendons ce soir. C'est ce que vous lisez tous les jours, ou ce que je vous conseille. Finalement, alors à ce moment-là, vous êtes sur la voie. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller ici ou là. Ce n'est pas la peine de rentrer dans un temple, ou dans une église, dans une chapelle. Ça ne sert à rien, parce que Dieu est partout. Et non seulement il est partout, mais il est avec nous, si nous croyons, et en plus il est en nous. C'est l'apôtre Paul qui déclarera. N'êtes-vous pas que votre cœur et votre corps ne sont-ils pas le temple du Saint-Esprit? Donc, pas la peine de faire un pèlerinage ici ou ailleurs, ça ne sert à rien, le Seigneur est au milieu de nous. Alors cette femme, on est très loin de ses préoccupations du début, elle vient de découvrir que l'homme qu'elle cherche éperdument, qu'elle n'a jamais trouvé, eh bien, cet homme est en train de lui montrer la voie du salut. Ce que c'est que le véritable amour. Parce qu'il n'y a que d'amour en Dieu. Et c'est lui qui nous enseigne l'amour. C'est lui qui nous enseigne à bien aimer. C'est lui qui nous enseigne à bien vivre. Alors à ce moment-là, quand le problème est résolu, quand un homme se convertit, quand un homme se repent de ses péchés et qu'il naît de nouveau, ben il a la clé, il a la solution, il a la réponse. Et il ne va plus à ses puits de désespoir. Il ne va plus à ses puits d'illusion. Et il peut recommencer une vie nouvelle. Il peut repartir à zéro, comme nous le chantons quelquefois. Il peut refaire sa vie là où il l'avait raté, là où il avait eu un échec ou des échecs, parce que Dieu va l'instruire, Dieu va lui montrer ce qu'il faut faire. Il va lui montrer la voie, naturellement. La femme lui dit, je sais que le Messie, alors c'est une païenne samaritaine qui n'a pas la connaissance des Juifs, mais elle sait une chose. Comment l'a-t-elle su? En tous les cas, elle le sait. Je sais que le Messie, dira-t-elle, doit venir celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Eh bien, il lui a annoncé toutes choses. Il lui a annoncé ce qu'elle avait besoin. Et vous savez, la clé de tout ce que nous sommes en train de dire, cette clé, nous l'avons en main. Parce que tant que les hommes, ou les femmes de ce monde, feront l'absence de Dieu, ou refuseront de reconnaître la réalité de Dieu dans ce monde, bien que Dieu soit invisible et très discret, alors à ce moment-là, ils reviendront comme cette femme, tous les jours, à puiser au puits des illusions, et ils finiront par s'épuiser. Parce que ce n'est pas la voie du bonheur, ce n'est pas la voie de la paix, ce n'est pas la voie de la satisfaction. Mais c'est exactement précisément le contraire. Quand nous voyons toute cette humanité qui se compte par millions et par milliards, la fortune des uns est peut-être différente de celle des autres, et je pense particulièrement aux plus déshérités de cette terre. C'est peut-être eux qui sont les plus proches, finalement, de l'invocation d'un Dieu qui sauve, et d'un Dieu qui est capable de pourvoir à tous leurs besoins, et de leur donner, finalement, eh bien là, tout ce qu'ils peuvent aspirer, et que le monde ne saura jamais leur donner, parce qu'ils ne sont pas capables. Il leur donnera une valeur qui est encore beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus haute, beaucoup plus forte. C'est celle qui est dans notre cœur. Cette femme cherchait. Cette femme errait. Elle vagabondait dans un labyrinthe. Et elle n'avait jamais trouvé encore. Elle avait multiplié peut-être les aventures et les expériences, mais elle était toujours aussi vide. Et là, elle vient de découvrir celui qu'elle appelle le Messie, que l'on dit être le Christ de Dieu. Et elle ajoute, mais il nous annoncera toutes choses. Eh bien, c'est à elle précisément que le Seigneur a commencé à lui annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et chose que Jésus a fait rarement, extrêmement rarement dans les évangiles, Jésus va lui dire, tu dis que je suis le Christ, tu dis que je suis le Messie. Et lui répond, je le suis moi qui te parle. Et vous savez, je le suis moi qui te parle. J'espère que vous entendez que c'est le Seigneur qui vous parle ce soir. Ce n'est pas un homme, moi je ne me fais que tout simplement le porte-parole. Ce n'est pas l'homme qu'il faut regarder. Mais quand nous sommes aux prises avec ce dilemme, cette confusion à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous sentons un vide immense, aussi grand qu'une mer et un océan, et à pleurer en disant « Mais qui pourra me donner satisfaction ? Qui me dira où est la vérité ? Qui m'apportera la justice ? Qui m'apportera le bonheur et la joie dans mon cœur ?» Eh bien Jésus répond « Mais je le suis, moi qui te parle. » Jésus, c'est lui, tout simplement. Quelle belle histoire et quelle belle aventure. Alors vous avez remarqué avec moi, une espérance qui traîne en longueur. Elle avait traîné en longueur sur le temps, et elle avait traîné en longueur avec six maris. On peut les mettre dans, le, hein, dans l'image. Alors, une espérance qui traîne en longueur est un crève-cœur. Et cette femme était malade, parce que son cœur était profondément malheureux de ne pas avoir trouvé réellement. Mais par contre, un désir satisfait, c'est un arbre de vie. Et là, elle venait justement de découvrir que Jésus était l'arbre de vie, celui qui pouvait la combler complètement et totalement. Ne nous méprenons pas. Si nous voulons construire bien, si nous voulons construire solide, si nous voulons construire avec la paix, avec la joie et le bonheur, il ne faut pas oublier celui qui est le principal. Et celui qui est le principal, c'est Jésus. Si nous le mettons dans notre vie, il nous ouvrira. Comme nous le chantons, tu ouvres pour moi des voies merveilleuses. Ouais. Dieu est capable d'ouvrir pour nous des voies merveilleuses. Et il n'est jamais trop tard. Et nous sommes tous quelquefois à nous tourner et nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes en disant, mais qui nous fera voir le bonheur ? Eh bien la réponse, Jésus vous l'a dit, moi Jésus, moi qui te parle, eh bien j'ai la solution. Si tu veux bien m'ouvrir ta vie, si tu veux bien m'offrir ton cœur, alors à ce moment-là tu ne viendras plus puiser sans cesse, quotidiennement, tous les jours, à ce puits des illusions. Mais regarde, un puits c'est toujours vers le bas, mais si tu regardes vers le haut, eh bien tu verras que à ce moment-là l'horizon il est sans limite, il est infini et il est éternel. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. En tous les cas, retenons que c'est Jésus qui sauve, et c'est Jésus qui peut nous conduire réellement sur le chemin du bonheur. Si nous voulons lui ouvrir simplement notre cœur et lui faire un peu de place. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'en effet, tu es celui qui s'adresse à tous les hommes à travers tous les temps, et les Samaritains et les Samaritaines, il y en a encore aujourd'hui. Des hommes qui sont là en errance, qui pleurent, qui sont là, Seigneur, à essayer de pouvoir remonter de ce puits des illusions quelque chose qui pourraient les satisfaire durablement, qui reviennent toujours à vie, et qui ont toujours faim, et qui ont toujours soif, qui sont toujours, Seigneur, insatisfaits. Et quelquefois, l'insatisfaction, eh bien, amène à des frustrations, des mécontentements, de l'aigreur et de l'amertume. Seigneur, tu as bien voulu nous rappeler ce soir qu'un désir, une espérance, un espoir différé rend le cœur malade. Et tu veux nous guérir, tu es venu pour nous guérir. Pour qu'ainsi, Seigneur, eh bien, nos espérances, nous les confions. Nous te les remettions, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, c'est toi qui vas les gérer, nos espérances. C'est toi qui vas faire, en effet, que ce que nous attendons va se réaliser, mais avec toi, jamais sans toi. Alors à ce moment-là, eh bien, nous pourrons goûter, eh bien, aux fruits de l'arbre de la vie, la paix et le bonheur, la joie et le contentement. Tu bénis nos amis, tu leur fais du bien, Seigneur, et qu'ils puissent véritablement retenir, profondément, sincèrement, eh bien, cette parole, puisque c'est toi qui leur as parlé, toi, Jésus le Sauveur. Amen. Amen. Amen.